Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présenté par Jean-Louis.
C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en vie.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 4 mai 2026. À quelques jours donc du 81e anniversaire de la victoire sur le nazisme, le 8 mai 1945. Mais également 81e anniversaire de cette tragédie que l'on connaît sous le nom de massacre de Tiaroy. Entre 20 000 et 30 000 victimes, arrêtées, torturées et exécutées sommairement pour rétablir l'ordre, terrorisées de façon durable les autochtones algériens et signifiées à l'ensemble des colonisés de l'Empire que leur indépendance n'est pas à l'ordre du jour. Alors que les responsabilités des politiques et des militaires sont aujourd'hui bien connues, la reconnaissance des massacres du 8 mai 1945 en Algérie et de tous les crimes commis dans l'Empire tarde encore. C'est un texte de Olivier Lecourt Grandmaison que je vais porter à votre connaissance. Et voici donc ce qu'il dit. Des, entre guillemets, arabes manifestent pacifiquement ce 8 mai 1945 dans le centre européen et ségrégué de Sétif pour exiger la libération du leader nationaliste Messaliadj et défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le jeune scout Saal Bouzid, qui porte le drapeau de l'Algérie indépendante, est abattu par un policier français. Dans les jours et les semaines qui suivent, les émeutes gagnent le Constantinois. Elles sont noyées dans le sang par les armées françaises et les milices coloniales composées de civils européens qui massacrent les « entre guillemets indigènes » de cette ville, puis ceux de Guelma et de Kerata. Citation. « Agir vite et puissamment pour juguler le mouvement. » Tels sont le 15 mai 1945 les ordres du général Raymond Duval qui commande les troupes de cette région. Bilan, entre 20 000 et 30 000 victimes, arrêtés, torturés et exécutés sommairement pour établir l'ordre, terroriser de façon durable les autochtones algériens et signifier à l'ensemble des colonisés de l'Empire que leur indépendance n'est pas à l'ordre du jour. Le gouvernement provisoire de la République française, GPRF, est alors prêt à tout pour défendre ses possessions jugées indispensables à la grandeur de l'Hexagone et au rétablissement de son autorité dans le monde. Et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, débattu à la conférence de San Francisco, 25 avril-26 juin 1945, à laquelle participe le représentant de la France, Georges Bidault, désigné par le général de Gaulle. Inscrit à l'article 1er de la Charte des Nations Unies adoptée à l'issue de cette conférence, cet admirable principe demeure pour les forces politiques du GRPF le droit des peuples blancs à disposer d'eux-mêmes. Dans le cas présent, ce droit se spécifie en « droit du peuple français à disposer encore et toujours des colonisés ». Ainsi est fait en octobre 1946, avec la consécration de l'Union française par la Constitution de la 4e République, qui réforme l'Empire pour mieux le perpétuer et maintenir la domination de la métropole, avec le soutien de la direction du Parti communiste et de la SFIO. Fidèle application des décisions qui ont été prises à la conférence de Brazzaville, 30 janvier 1944, 8 février 1944, par le Comité français de la Libération nationale, CFLN, en ouverture des travaux, après avoir salué l'immortel génie de la France toute désignée pour élever les hommes vers les sommets de dignité et de fraternité, ce sont les citations, de Gaulle avait ajouté « Entre la métropole et l'Empire, le lien est définitif, il appartient à la nation française et il n'appartient qu'à elle de procéder, le moment venu, aux réformes impériales de structure qu'elle décidera dans sa souveraineté. » Fin de citation. Quelques jours plus tard, la déclaration finale rejetait toute possibilité d'évolution hors du bloc français et toute constitution, même lointaine, de self-government. Lumineux. En quelques lignes, tout est dit. Et les orientations coloniales du pays sont pour longtemps établies. Les responsabilités des politiques et des militaires, à partir du 8 mai 1945 en Algérie, le recours aux milices coloniales qui ont torturé, exécuté sommairement et brûlé de nombreux corps dans les fours à chaud d'Héliopolis, et le bilan de ces massacres sont aujourd'hui bien connus grâce aux travaux de celles et ceux qui, en France comme à l'étranger, les ont étudiés. N'en déplaise aux élus et aux membres des gouvernements passés et présents, souvent ignorants, aux démagogues comme aux apologues, ce sont parfois les mêmes qui, pour mieux se défausser, exigent des universitaires et des chercheurs qu'ils continuent à travailler. La bataille pour la connaissance a été depuis longtemps remportée. Est-ce à dire que les investigations doivent cesser? Évidemment non. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui manque à ceux qui président aux destinées de l'Hexagone, c'est le courage de comprendre ce que nous savons et d'en tirer les conséquences. À preuve. De ces massacres, l'ambassadeur de France en Algérie, Hubert Collin de Verdière, affirme le 27 février 2005 à Sétif qu'ils étaient, citation, « une tragédie inexcusable ». Sublime syntagme qui permet dans le même souffle de condamner ce qu'il s'est passé tout en occultant à dessein les auteurs de la dite tragédie qui demeure sans nom précis ni adresse précise puisque l'État et ses dirigeants ne sont jamais désignés. 3 ans plus tard, le 27 avril 2008, son successeur, Bernard Bajolet, en visite à l'université du 8 mai 1945 à Guelma, souligne, citation, « la très lourde responsabilité des autorités françaises de l'époque dans ce déchaînement de folie meurtrière qui a fait des milliers de victimes innocentes, presque toutes algériennes. Aussi dures que soient les faits, ajoutait-il, la France n'entend plus les occulter. Le temps de la dénégation est terminé. Ces massacres sont une insulte aux principes fondateurs de la République française et ils ont marqué son histoire d'une tache indélébile. » Fin de ces plusieurs citations. Donc de Bernard Bajolet, qui est donc l'ambassadeur de France en Algérie à l'époque. Admirable, habile stratégie discursive en vérité qui est conforme aux us et coutumes politico-diplomatiques régis par une efficace police du langage. Sous couvert de formules convenues et d'une qualification, la folie, parfaitement inadéquate pour rendre compte des décisions qui ont conduit à ces massacres, cet ambassadeur est le parfait ventriloque d'un dessein élyséen constant, la nomination, le A privatif, bien évidemment. La multiplication des circonvolutions langagières, le refus d'employer certaines catégories et les silences même que ce refus révèle reposent sur la volonté obstinée de ne pas nommer de façon précise les tueries perpétrées par les armées françaises et les milices coloniales. Tueries qui ressortissent à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité susceptibles, en raison de l'imprescriptibilité de ces derniers, de déboucher sur la saisine des tribunaux de l'Hexagone et la mise en cause de figures politiques et militaires majeures entrées au panthéon symbolique de la République. Au regard de la situation présente, les propos de Hubert Collin de Verdière passeraient presque pour audacieux s'ils n'avaient été sans doute aussi motivés par la volonté d'atténuer les conséquences diplomatiques de la loi scélérate votée le 23 février 2005, soit 4 jours auparavant. Souhaité par l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, que préside alors Nicolas Sarkozy, puis voté par la majorité, cette disposition législative, sans équivalent dans aucune autre ancienne puissance coloniale, établit une interprétation officielle et apologétique du passé colonial. Conforme à la mythologie impériale républicaine forgée par Jules Ferry et ses alliés en 1885, savamment entretenue par nombre d'agiographes, historiens, juristes, politistes et académiciens bicornés, puis diffusée par des manuels scolaires imprimés à des millions d'exemplaires avec le soutien du très puissant ministère de l'Instruction publique, cette glorification de l'histoire impériale n'a cessé de prospérer. Confrontée à la concurrence politique, électorale et culturelle du Front national puis du RN, et toujours plus menacée par cette dernière formation, les droites de gouvernement ont repris à leur compte les thèses, au mieux révisionnistes, au pire négationnistes, des défenseurs de l'Algérie française et des colonies. À la suite de Nicolas Sarkozy, François Fillon et Bruno Retailleau, notamment, ont eux aussi vanté les beautés de la France impériale et nié sans vergogne les crimes commis dans les possessions françaises. De même, Édouard Philippe, figure importante du mal nommé Bloc central, lequel souffre, par faute de ce dirigeant et de plusieurs autres, d'un strabisme prononcé vers le parti de Marine Le Pen. Triomphe de post-vérité ou de vérité alternative, affirment les partisans de la réaction pour légitimer leur détestation des sciences humaines et sociales. Triomphe beaucoup plus inquiétant de contre-vérité, répété par une partie significative des élites politiques, avec le soutien actif des organes de propagande du groupe Bolloré et la caution pseudo-scientifique de plumes servilement orthodoxes, ces grossières contre-vérités, qui prospèrent aussi sur l'ignorance crasse de certains journalistes, pensent désormais pour vrai. Loin de porter la plume dans la plaie, comme l'écrivait Albert Londres, ces derniers se plient à la doxa de saison et érigent l'opinion publique en juge de faits historiques stupéfiants. En raison d'une inversion digne de 1984, catastrophique, pour l'entêtement des faits pour les innombrables travaux relatifs à la colonisation française, victimes d'une sorte d'auto-da-fé symbolique puisqu'ils sont néantisés, ceux qui demeurent fidèles à la volonté de savoir tombent sous le coup d'accusations convenues et abracadantesques forgées à dessein, islamo-gauchisme, wokisme et haine de la France. Le plus mythologique et le plus idéologique deviennent alors l'expression réputée nuancée de vérités complexes contre les « légendes noires », entre guillemets, inventées par des universitaires et des chercheurs dévoyés. De là aussi, la multiplication des attaques contre les libertés académiques, les sciences humaines et sociales, toutes vouées aux gémonies par une puissante corde bicarrée de démagogues soutenus par de doctes censeurs qui s'arrogent le monopole de l'objectivité et de l'éthique académique. Loin des prochaines commémorations du 8 mai 1945, les maires et les élus des gauches politiques doivent, partout dans l'Hexagone, s'en saisir pour rappeler qu'au moment même où les Français célébraient la fin de la Seconde Guerre mondiale, débutaient en Algérie les terribles massacres que l'on sait. Le 9 septembre 2025, une résolution unitaire déposée à l'Assemblée nationale exigeait la reconnaissance de ces derniers comme crimes d'État. 49 députés socialistes, communistes et écologistes ont soutenu cette initiative qui fut précédée de rencontres multiples avec des spécialistes, des militants associatifs et d'un colloque tenu dans les locaux de la représentation nationale. De son côté, Idir Mourmeti, tenu informé de ses travaux auxquels il a été convié sans jamais y participer, a proposé une version singulièrement similaire signée par les membres de son groupe LFI. Aujourd'hui maire de Vénissieux, nul doute qu'il aura à cœur de passer de ce texte à la pratique et de dénoncer haut et fort les crimes perpétrés à Sétif, Guelma et Kerata à partir du 8 mai 1945. Dans la conjoncture présente, caractérisée par la glorification abjecte du colonialisme, il est indispensable que les édiles, attachés à la vérité, prennent la parole pour rétablir les faits et mettre un terme aux discriminations mémorielles qui affectent les héritiers de l'immigration coloniale et postcoloniale. Alors que depuis des années, les extrêmes droites et les droites de gouvernement mènent avec succès une bataille politico-culturelle de réhabilitation du passé impérial français, des terroristes de l'OAS et du tortionnaire Bijar, également coupables d'innombrables disparitions forcées pendant la dernière guerre d'Algérie, s'y opposer de façon unitaire est plus que jamais indispensable. Indispensable aussi, au-delà des massacres du 8 mai 1945, de s'engager dans la décolonisation de ce pays et de l'espace public, de changer le nom des voies, Colbert, Bugeaud, Lamoricière, Federbe, etc., qui honorent les bourreaux des esclaves et des indigènes, et d'exiger la construction d'un musée dédié à l'histoire de la colonisation. Face aux déclarations péremptoires et mensongères de l'historien de cour Pascal Blanchard, qui affirme que sur ces sujets, le bilan d'Emmanuel Macron n'est pas mauvais, citation parue dans Le Monde du 23 avril 2026, on ne mord pas la main qui vous soutient et qui indirectement vous finance. Rappelons quelques faits qu'il ignore et qu'il omet à dessein. Depuis 1982, la dénomination des rues est une compétence municipale et les habitants ont la possibilité de faire des propositions. Quant aux changements qui ont été décidés dans ces dernières années à Paris et à Marseille notamment, ils ne doivent absolument rien au chef de l'État. De même, les initiatives en cours pour débaptiser les rues et ou les avenues Bugeaud. à l'instar de l'Assemblée des quartiers populaires constituée en avril 2024. La création d'une assemblée coloniale inclusive, indépendante et démocratique s'impose. Elle permettrait de fédérer des campagnes multiples, de constituer une force nouvelle pour combattre les assassins de l'histoire et de la mémoire du colonialisme, le plus souvent raciste, islamophobe, négrophobe et parfois néo-nazi, défendre les revendications des héritiers des immigrations coloniales et postcoloniales et travailler à la mise en œuvre des réparations et des restitutions dues aux anciennes possessions françaises. Autant d'objectifs dont la réalisation est exigée depuis septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui s'est tenue à Durban. Est-il besoin de préciser que 25 ans après, les très glorieuses autorités de l'Hexagone, dirigées par la droite ou la gauche, se distinguent, en dépit de quelques avancées, par leur conservatisme et leur pusillanimité inacceptable et par la tardiveté des dispositions adoptées. Quant aux restitutions déjà réalisées, comme à celles qui seront rendues possibles par la loi votée prochainement par le Parlement, elles participent d'une diplomatie culturelle destinée à redorer le blason du pays en Afrique, où il a subi d'importants revers géopolitiques qui l'ont privé d'une partie substantielle de son précaré établi au lendemain des indépendances. Enfin, la récente conversion de la droite aux restitutions et la procédure législative engagée à l'initiative du gouvernement avec l'aval d'Emmanuel Macron sont très certainement conçus comme une concession indispensable destinée à renvoyer aux calendes grecques la reconnaissance des crimes contre l'humanité commis aux colonies. Autant d'enjeux divers qui justifient plus encore la nécessité impérieuse d'une assemblée décoloniale capable de mobiliser nationalement, de mener un combat anticolonial et antiraciste déterminé en exhumant l'histoire impériale de France et parfois les continuités de ses orientations et des méthodes répressives employées pour maintenir l'ordre dans les territoires ultramarins. Voilà. Donc ce texte était un texte d'Olivier Lecourt-Grandmaison, qui est donc un universitaire, et donc on peut citer pour ses derniers ouvrages parus « La fabrique du roman national républicain » aux éditions Amsterdam en 2025, et un autre livre « Oradour, coloniaux français contre le roman national ». C'est paru au Lien qui libère en 2025. Bon, suivez à la suite de ce texte, mais ça, je ne vais pas vous les lire, toute une série de notes que certains passages donc, du texte que je vous ai lu renvoient. Donc ça, vous le retrouverez à la fois sur le site de la Fédération nationale de la libre-pensée et également donc, sur le site du groupe Fred Zeller de la libre-pensée. Mais il me semblait important, à quelques jours de l'anniversaire du 8 mai 1945, de lire ce texte qui revient donc sur ces massacres et ces crimes contre l'humanité commis donc par le gouvernement français à Sétif, Guelma et Kerata. Voilà. Alors, je voudrais, pour terminer cette chronique, pour cette deuxième partie de cette chronique, vous lire la préface d'un ouvrage que la Libre-Pensée va publier très prochainement, et qui est intitulé « Quand l'antiracisme institutionnel fabrique l'inégalité, discipline les consciences et abîme les psychismes ». Donc cette préface, ça apparaîtra dans la série « Arguments hein, ». Et c'est un ouvrage, une brochure qui va être publiée très prochainement. Et cette préface est rédigé par Mornia Lapsi, qui est la militante anti-raciste, inspectrice du travail et membre de l'association Kuzaku. Donc voici ce qu'elle écrit comme préface. J'écris cette préface en conscience politique, historique et humaine. Je ne l'écris pas pour accompagner poliment un texte, mais pour prendre position. Car ce que Christian Eschen analyse et démontre n'est pas un simple document administratif de plus dans la production ministérielle. Ce vade-mecum du ministère de l'Éducation nationale n'est ni neutre, ni innocent, ni simplement maladroit. Il est une pièce idéologique à part entière, inscrite dans une séquence politique précise, et ses effets dépassent largement le cadre scolaire. Ils attiennent les corps, les esprits, les psychismes, en particulier ceux qui sont déjà les plus fragilisés par l'ordre social. Ce texte s'inscrit dans une époque marquée par la montée de la réaction, par la banalisation de l'autoritarisme, par la transformation de la contrainte en langage pédagogique. Il prétend lutter contre le racisme, mais en organise en réalité la reconfiguration. Il parle d'égalité tout en enseignant l'acceptation de l'inégalité. Il adopte les formes de la prévention et de la morale républicaine pour imposer une normalisation idéologique. Il ne vise pas à émanciper, mais à contenir. L'école n'est pas ici pensée comme un lieu d'émancipation, mais comme un espace stratégique. Un espace où se forgent les intellects, mais aussi les affects, les représentations de soi, l'estime personnelle, le sentiment de légitimité à exister. Un espace où l'on apprend très tôt ce qui peut être dit et ce qui doit rester tu, ce qui est digne d'être dénoncé et ce qui doit être relativisé, intériorisé, supporté. Ce vade-mécum prépare les esprits à un monde où chacun est sommé de rester à sa place, où les rapports de domination ne disparaissent pas, mais deviennent indicibles. On y apprend à classer les racismes, à les compartimenter, à les hiérarchiser. On y apprend que toutes les discriminations ne se valent pas, que toutes les souffrances n'ouvrent pas les mêmes droits à la parole, que certaines colères sont légitimes quand d'autres deviennent immédiatement suspectes, pathologisées, réprimées. Diviser les racismes, c'est diviser celles et ceux qui les subissent. C'est empêcher toute lecture globale des dominations. C'est une méthode politique éprouvée et ce document s'y inscrit pleinement. L'usage désormais massif de la fiction du prétendu racisme anti-blanc participe directement de cette entreprise. Ce n'est pas une erreur conceptuelle. C'est un instrument idéologique. Il permet de vider le racisme de son épaisseur historique, coloniale et esclavagiste, de cette dimension structurelle pour en faire une abstraction symétrique et inoffensive. Il renvoie dominants et dominés dos à dos, neutralise les luttes antiracistes réelles et fabrique une fausse équivalence qui bénéficie toujours aux mêmes. Le vade-mécum ne déconstruit pas clairement cette fiction. Il en aménage au contraire les conditions de retour juridique et symbolique. Cette ambiguïté est un signal. Elle instille la peur de trop nommer les dominations, de trop dénoncer les injustices, sous peine d'être soi-même renvoyé à l'accusation. Mais la violence la plus profonde de ce texte est ailleurs. Elle est dans ce qu'il prépare psychiquement. Ce texte est aussi une manière de préparer les psychismes à la maltraitance. Il vient frapper celles et ceux qui souffrent déjà dans une société profondément réactionnaire, celles et ceux qui vivent dans la précarité, celles et ceux qui sont identifiés comme musulmans réels ou supposés, celles et ceux qui sont déjà déshumanisés. Ces populations subissent des violences institutionnelles répétées de la part de l'État, de la police, des institutions, parfois jusqu'à la mort. Des violences où l'on dispose de leur corps comme s'ils n'étaient pas pleinement humains, où l'on porte atteinte à leur liberté de circulation, où les contrôles aux faciès, les contrôles des corps, des déplacements, des présences dans l'espace public sont devenus un mode opératoire ordinaire de l'État. Un État qui sanctionne non pas tant pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on est. Et ces mêmes enfants, ces mêmes jeunes, on vient leur imposer encore de nouvelles règles, de nouvelles injonctions, de nouveaux cadres moraux par le biais de ce vade-mécum. On leur dit comment parler, comment penser, ce qu'il est permis de comparer, ce qu'il est interdit de nommer. Face à cela, ils se replient encore davantage. Ils réagissent encore davantage. Ils perdent encore davantage l'amour qu'ils devraient avoir d'eux-mêmes. Or, l'école devrait précisément être le lieu où se construisent l'estime de soi, la confiance et la possibilité de se projeter, de rêver. La violence est immense lorsque ce que l'on vit à l'extérieur, la précarité, la stigmatisation, les contrôles, la peur se combinent avec la violence institutionnelle vécue à l'intérieur de l'école. Ces violences s'articulent, se renforcent, se cristallisent. Elles participent à préparer très tôt l'organisation sociale et économique, orientant certains profils vers les travaux les plus pénibles, les plus dévalorisés, les plus mal payés. L'école n'est pas neutre dans ce processus, elle le prépare. Ce vade-mécum contribue ainsi à un désastre de l'estime de soi, à un désamour intérieur, à une souffrance psychique aujourd'hui largement identifiable. Une souffrance qui pousse une partie de ces jeunes à chercher ailleurs une reconnaissance d'existence, une reconnaissance d'humanité, parfois dans des pratiques ou des consommations qui les abîment davantage. Non parce qu'ils veulent se perdre, mais parce qu'ils veulent exister, parce qu'ils veulent être vus comme des enfants, comme des êtres humains. Il y a en filigrane dans ce texte un doigt pointé, une adresse ciblée, une injonction claire, un avertissement, un blâme anticipé, une sanction anticipée, celle de l'école, autant que celle de la société. Le message est limpide. Attention, restez à votre place sociale, votre place raciale, votre place politique, votre place psychologique, psychique. Ce Vade-mecum n'est pas un outil de conscientisation ni un outil d'émancipation. Il est un outil de cadrage, d'anticipation, de discipline. Il dit aux futurs sujets présumés conscients, présumés contestataires, c'est nous qui décidons de votre avenir. C'est nous qui décidons de ce qu'est la justice, de ce qu'est l'égalité, de ce qu'est la liberté d'expression. Elles existeront, mais selon nos termes, toute contestation sera neutralisée. Ce dispositif s'inscrit pleinement dans le contexte actuel de la criminalisation des solidarités, notamment du soutien au peuple palestinien. Aujourd'hui, utiliser les fondements mêmes de l'état de droit, le droit international, la liberté d'expression, pour dénoncer un génocide, une colonisation de peuplement, expose à l'incrimination et à la sanction. Le droit est détourné pour protéger un État et une idéologie. Cette instrumentalisation met en danger tout le monde, y compris celles et ceux qu'elle prétend défendre, en alimentant amalgame, tension et haine. Dans le même temps, d'autres génocides continuent d'être niés ou relégués, celui des Tutsis, ceux des peuples autochtones, les crimes coloniaux de masse, notamment en Algérie. Cette hiérarchisation n'est pas neutre. Elle participe d'un récit national permettant la continuité de l'injustice. Si ce vade-mecum existe, c'est parce que quelque chose échappe, parce que les consciences se libèrent, parce que les jeunes générations font des liens, refusent les silences imposés, contestent les privilèges devenus institutionnels. Face à cela, l'État choisit l'anticipation, le cadrage, la discipline. Quoi de plus simple que de modeler des enfants, des jeunes encore en construction ? Or, ce qui nous incombe désormais, ce qui nous engage collectivement, c'est de dire clairement que le vade-mecum dont nous avons besoin n'est pas celui-ci. Le vade-mecum nécessaire est un vade-mecum des libertés réelles, liberté de conscience, liberté d'être ce que l'on est, liberté de faire société sans être hiérarchisé, sans être assigné, sans être écrasé. Il doit être porté par celles et ceux qui sont les premières victimes de ce système, mais aussi par celles et ceux qui pensent ne pas être concernés. Et également par celles et ceux qui se revendiquent de la lutte, mais qui, parfois sans le mesurer, participent encore de ce système en acceptant des privilèges décrétés par lui. Faire société, c'est aussi accepter de regarder en face ce que l'on reçoit, ce que l'on conserve, ce que l'on doit renoncer à partager. Ce vade-mecum à construire doit outiller à la justice réelle, pas à la justice bourgeoise, pas à celle qui incarcère massivement des personnes racialisées, pas à celle qui protège les intérêts de domination. Une justice qui répare, qui restaure, qui égalise concrètement les conditions de vie et d'existence. Il doit être porté collectivement, dans la rue, le poing levé, en foulant le pavé devant les institutions, en disant ensemble que les privilèges de classe, de race et de genre doivent être abolis. Le dire, c'est déjà agir. L'écrire, c'est déjà transformer. L'enseigner, c'est déjà préparer une autre société. Nos enfants le méritent. Ils méritent de vivre et pas seulement de survivre. Ils méritent d'être heureux ensemble sans que l'un écrase l'autre, sans injonction permanente à rester à une place assignée, sans atteinte à leur dignité, sans ce sentiment destructeur de ne pas être pleinement humain. Ils méritent une école qui respecte l'histoire de chacune et chacun, qui écoute enfin la parole de celles et ceux qui ne sont jamais entendus, qui reconnaît l'humanité de celles et ceux qui souffrent. C'est cela le vade-mecum que l'éducation nationale devrait porter aujourd'hui. Et c'est déjà profondément ce que fait le travail de Christian Eschen. Ce travail doit devenir endémique. Il participe de la véritable lutte contre la réaction. Il participe de la véritable construction d'un État qui se dit de droit parce qu'il repose sur l'égalité concrète, la dignité effective, la justice réelle et la santé psychique de toutes et tous. C'est au nom de cette exigence que je signe cette préface et que je l'assume pleinement. Et je rappelle donc, ce texte, au prochain numéro d'Arguments de la Libre Pensée, a été écrit par Mornia Alapsi, militante antiraciste, inspectrice du travail et membre de Coudes à Coudes. Voilà, donc nous en arrivons à la fin de cette chronique et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine chronique, mais lundi prochain. Merci à Antoine pour la technique.
En forgeant un socle de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.